France Musique.
سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم که من نسیم حیات از پیاله می جویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوش خویم. شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم. گرم نه پیر مغان در به روی بکشاید، کدام در بزنم؟ چاره از کجا جویم؟ مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم می دهند می رویم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواه که هر جا که هست با اویم. غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم. ز شوق نرگس مست بلند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک، غبار زرق به فیض قدح فروشویم.
France Musique. Planète Cora. Aliette de la Lune.
Il existe dans la mythologie persane un oiseau merveilleux. Il est immense, solitaire, d'une sagesse ancienne comme le monde. Il a tellement vécu qu'il a déjà vu 3 fois le monde se détruire et se reconstruire. Il parle la langue des hommes et guérit par le simple frôlement de ses ailes aux couleurs cuivrées. Cet oiseau s'appelle le simorgh. On le retrouve dans la Conférence des oiseaux, chef-d'œuvre mystique du poète soufi Attar. 30 oiseaux pèlerins s'élancent à sa recherche, traversent 7 vallées, de l'amour à l'anéantissement, pour découvrir au terme du voyage que le simorgh est aussi ce qu'ils sont devenus ensemble. Dans ce récit, le simorgh est un miroir qui permet de découvrir son moi profond. Ce bel oiseau apparaît également dans le Livre des Rois de Ferdowsi, épopée retraçant l'histoire de l'Iran. Le simorgh fait partie intégrante de la culture perse, de la langue, de la poésie et de la musique. Il va nous guider dans cette émission où nous recevons un quatuor iranien, Hor, au nom inspiré d'un oiseau. Bonjour et bienvenue dans Planète Okora.
Thank you.
Pour la nuit la plus longue de l'année, la fête iranienne de Shab Yalda, nous avons le grand bonheur et honneur de recevoir quatre musiciens et musiciennes, le quatuor Hor, pour célébrer ensemble ce solstice d'hiver. Et à ma table, je reçois Sanaz Satarzadeh et Hossein Rad. Bonjour à tous les deux et bienvenue.
Bonjour Aliette, merci de nous recevoir ici.
Vous êtes tous les deux nés à Téhéran, en Iran. Vous connaissez les cultures, les traditions de ce pays, notamment la tradition de Shab Yalda que l'on célèbre ce soir. Et dans les coutumes de cette fête iranienne, il y a un moment important appelé Fol. C'est ce que l'on a fait en tout début d'émission. Hossein, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est cette tradition?
Alors, on ouvre tout simplement le recueil de Hafez, qui est un des grands poètes classiques dans la littérature persane. Donc, on ouvre le recueil, on réfléchit à quelque chose, à une demande, à un rêve, à une idée, ou des fois très précisément on demande quelque chose, on pose une question, une hésitation, et après on ouvre et on lit un des poèmes qui se situe à droite quand on ouvre le recueil, et on lit ça et on essaye de trouver la réponse en fait à cette question-là, et des fois c'est flagrant à quel point ça correspond d'un coup, il y a quelque chose de magique là-dedans.
Ensuite, on a ouvert avec un morceau de la musique composée par vous, Sanaz. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce qu'on a entendu pour ouvrir cette émission?
اول از همه سلام میکنم به شما و شنونده هایی که برنامه رو میشنون خیلی خوشحالم که اینجاییم.
Alors tout d'abord, dis bonjour et vous remercie de nous recevoir ici. Bonjour à vous et à tous les auditeurs et auditrices. Donc le morceau que nous avons entendu est une forme classique dans la musique Qajar, dans la musique iranienne de l'époque Qajar, qui s'appelle Chahar Mezrab, qui a été composée par Sanaz pour le groupe On, dont elle fait partie aussi, qui est basé en Iran, à Téhéran. Le morceau a été composé autour des capacités en fait, et de ce que l'instrument qu'elle joue propose, c'est-à-dire le tor, et les autres instruments qu'il joue dans l'orchestre, mais principalement avec ce qu'on peut faire avec ces instruments pour mettre en lumière cet instrument-là.
Vous, votre ensemble, votre quatuor s'appelle Hor, c'est le nom d'un oiseau. Quel est cet oiseau, Hossein?
Alors c'était déjà au départ c'était une surprise pour nous de savoir aussi que c'est un oiseau aussi, parce que au départ nous on était parti sur le sens premier du terme, disons, qui est roch, qui est un mot qui trouve ses origines dans la langue avestique, qui est la langue ancienne ancienne langue en Iran, parlée en Iran, donc qui veut dire visage. Et il y avait cette idée de mettre en fait en valeur le visage de ce que ça peut être la musique classique iranienne. Donc, et aussi ce mot-là, il a même les mêmes origines que le mot Roshani, la lumière. Donc par exemple le prénom Roxane avec le R-O-X, en fait ça vient des mêmes origines. Donc en fait il y a une idée de visage, de la lumière, de façade, de ce qu'on voit. Et dans le groupe on a l'intention de mettre le miroir, en fait, sans vouloir dire, parce qu'on se demande, c'est peut-être une question toujours qui revient, qu'est-ce que c'est que la musique classique persane? Qu'est-ce que c'est que la musique classique iranienne? Il n'y a pas une réponse à ça, il n'y a pas une musique classique. Et donc, en fait, c'était à la place de dire, nous, ce qu'on fait, c'est de la musique classique, nous, ce qu'on a envie de dire et ce que tu as envie de faire, c'est plutôt, on met le miroir en face de ce que ça peut être, en fait, la musique classique persane.
Et on va pouvoir écouter, découvrir ça, puisque vous êtes venus, Hossein et Sanaz, avec Sina Danesh et Ava Aresazan. Et vous allez nous interpréter un premier titre en studio, dans les studios de France Musique. Je propose qu'on vous écoute. Et puis ensuite, vous pourrez peut-être parler de la musique que l'on vient d'entendre.
Parfait. Oh.
من گرفتم بر کف، من گرفتم بر کف نقد جان شیرین را، من گرفتم بر کف نقد جان شیرین را، تو نهفته بر لب خنده های شیرین را، خنده های شیرین را، خنده های شیرین را، خنده های شیرین را. من فکندم بر دل عقده های بی حاصل، تو گشوده ای بر رخ طره های پرچین را، طره های پرچین را، طره های پرچین را، طره من زدیده می بارم قطره های گوناگون، تو ز شیشه می نوشی باده های چشمت، تا به گوشه چشمت یک نظر کنم روزی. گوشه یه چشمت یک نظر کنم روزی، شب ز گریه تر کردم گوشه های بالین را، شب ز گریه تر کردم گوشه بالین را، گوشه های بالین را، شب ز گریه تر کردم گوشه های بالین را.
C'était le Quatuor Hor dans le studio de France Musique avec Hossein Rad aux percussions, à la voix, Sanaz Satarzadeh au tar, Sina Danesh au kamanché et Ava Aresasan au oud. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce morceau que l'on vient d'entendre ?
Dans le Quatuor, on essaye de manière générale de revoir un peu les habitudes qu'on a, même nous-mêmes en fait, en premier dans la musique classique. Donc, c'est en quelque sorte, on essaie de pousser un peu les frontières, de voir un peu comment on peut faire autrement, tout en restant évidemment dans les cadres que la tradition nous impose. Mais il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et ce premier morceau, c'est un sorzovos qui a une forme, en fait, vraiment assez courante dans la musique du 18e, 19e siècle en Iran, donc musique Qajar. Et à la différence que ici, la musique est écrite, ça a été composé par Sanoz, et moi j'avais pas envie de faire d'avoir justement un sorzovos où c'est vraiment il y a le chanteur qui chante et les instruments qui répondent. Donc comme vous avez entendu, il y a vraiment un peu une application plus que d'habitude en fait des instrumentistes aussi qui sont ici des vocalistes aussi, des chanteurs et chanteuses. Donc ce morceau-là, alors, a été composé par Sanoz. Et donc, les poèmes sont de Folourie Bastami. Est-ce que vous voulez un bout de traduction
de
ce qu'on a chanté ? Alors, j'essaie de lire sans m'arrêter. J'ai voulu t'offrir ce qui m'est le plus précieux, ma vie. Et tu continues de me priver de tes sourires les plus tendres. Mon âme est mêlée à la vanité de mes tourments, tandis que tu démêles les boucles qui voilent ton visage. Où que je sois, je ne puis retenir mes larmes, et te voici qui t'enivre inlassablement. Voilà.
Merci beaucoup. Vous êtes un quatuor mixte, deux musiciennes, deux musiciens. Quelle est la place des femmes instrumentistes dans la musique iranienne, Sanaz?
Historiquement, évidemment, il n'y en a jamais eu autant de place pour les femmes que pour les hommes sur la scène musicale en Iran. Ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui, mais depuis qu'on connaît en fait l'histoire de cette musique. Évidemment, je suis consciente que ce n'est pas uniquement le cas en Iran, et donc même dans les sociétés dites développées, on fait face à cette discrimination. Et évidemment, ce n'est pas uniquement le cas de femmes et hommes, même parmi les hommes, ceux qui sortent aussi de courant principal, du mainstream, comme on dit, ils souffrent des mêmes difficultés et aussi doivent faire un effort beaucoup plus important par rapport aux autres, en fait, pour pouvoir faire entendre leur voix, si on peut dire comme ça. Malgré tout ça, les femmes ont réussi, enfin, évidemment, ont réussi à différentes époques à faire leur chemin et être présentes. Parmi les grands noms, on peut citer Bibi Khanoum, qui a, après la révolution constitutionnelle en Iran en 1906, a créé la première école d'enseignement pour les femmes, malgré le fait que c'était interdit par la religion, malgré beaucoup de pression, ou un peu plus tard, Parvaneh, qui a aussi fait beaucoup d'efforts. Elles étaient parmi les femmes, en fait, instrumentistes qu'on connaît dans l'histoire.
Et de mon côté, j'avais envie aussi qu'on entende la voix d'une chanteuse iranienne, puisqu'elles ont compté ces chanteuses. C'est celle de Panteh Alvandipour dans un enregistrement qui s'inspire des musiques. On en parlait de l'époque Qajar, donc on peut situer cette époque plutôt au 19e siècle. Et la chanteuse ici est accompagnée par le joueur de ney Siamak Jangiri. un duo Ney-Voix porté par l'ensemble Del Gaucha, enregistré en 2012 sur le label Inédit en partenariat avec la Maison des Cultures du Monde.
France Musique, Planète Okora, Aliette Delalleu.
On écoute le Quatuor Hor, votre choix musical. Hossein, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que l'on vient d'écouter ?
Alors, l'extrait qu'on vient d'écouter, dans cet extrait, c'est Abdelbahop Shahidi, un très grand instrumentiste et aussi chanteur iranien de milieu vers fin 20e siècle, qui joue le oud dedans et qui chante. Donc, nous avons proposé ce morceau pour plusieurs raisons. D'une part, Abdelbahop Shahidi fait partie de ces musiciens qui chantent aussi. Et lui, il a la particularité de chanter et en fait faire le travail de l'instrumentiste et le chanteur à la fois. Pour moi, c'est un peu comme un troubadour en fait iranien, dans le sens, pas dans le sens voyage et itinérance, mais plutôt dans le sens où vraiment c'est quelqu'un qui a une voix très particulière, qui prend son instrument, qui joue. Et vraiment, il y a quelque chose de particulier déjà dans son art. Donc ça, c'est sa particularité. Mais aussi, c'était pour mettre en lumière ce musicien, mais pas que, mais une partie des musiciens qui ont souffert par une sorte d'ignorance, en fait, plutôt, après la révolution de 1979. C'est des musiciens qui étaient très actifs. L'enregistrement qu'on vient d'entendre, ça s'était fait justement à l'époque à la radio nationale iranienne. Dans une série d'enregistrements qui était très courant, une émission qui était très connue à l'époque. Et donc, eux, ils étaient très actifs. D'un coup, il y a la révolution qui arrive. Et il fait partie des musiciens qui étaient un peu plus âgés que les dites révolutionnaires. Donc, en fait, d'habitude, les révolutions sont portées par des jeunes plutôt moins de 25 ans, 26 ans, moins de 30 ans. Et eux, ils étaient un peu plus âgés. Donc, à mon sens, un peu plus sages. Ils n'ont pas participé, c'était pas des révolutionnaires. Donc en fait, les musiciens révolutionnaires, ils ont profité de cette situation pour les écarter un peu. Et donc en fait, ils étaient vivants pendant des années. Je ne me souviens plus Abdelbahop Shahidi à quelle année exactement il a été décédé, mais il a été en vie pendant longtemps après. Et en fait, vraiment dans l'imaginaire, dans la pensée collective, c'était comme s'il était mort. Plein de gens pensaient qu'il était mort alors qu'il était vivant. Donc c'est un peu un destin pour moi un peu triste. Et il n'est pas le seul. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Golpa, il y a Big Jerani. Tous ces musiciens-là ont été ignorés à cette époque. Donc voilà.
J'avais envie de vous demander la place des maîtres dans l'apprentissage de la musique iranienne. On a cité quelques noms. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours aussi important dans l'apprentissage de la musique d'avoir un maître pour enseigner?
خب هنرجوهای موسیقی دستگاهی میتونن از دو طریق.
Alors il y a vraiment deux voies principales en Iran pour apprendre la musique. Aujourd'hui en tout cas, il y a une sorte de lycée professionnel pour la musique, on pourrait appeler conservatoire ou lycée professionnel. Donc en fait, les jeunes qui veulent apprendre la musique, donc ils peuvent aller dans ces lycées professionnels. Et aussi, il y a toujours à côté, évidemment, dans les instituts plutôt privés ou chez les enseignants où on peut apprendre la musique. Et en fait, les deux voies, il y en a vraiment, l'idéal, c'est d'avancer vraiment les deux voies ensemble. Sans indiquer avoir eu la chance justement d'avancer les deux ensemble, donc elle a été au lycée professionnel, mais en même temps elle a profité des enseignements de différents maîtres. Mais aussi elle précise que aujourd'hui ce rapport maître-élève vraiment, comme on peut peut-être encore observer en Inde ou dans d'autres pays, en Iran existe très peu quoi. Ça existe encore, mais c'est pas ce qui est de plus courant.
Et Sanaz, vous avez bénéficié de l'enseignement de Mohammad Reza Lotfi qu'on va écouter dans cette émission. Poème de Hafez, chanté ici par Mohammad Reza Shajarian, joué et accompagné par Mohammad Reza Lotfi dans notre émission. Le Quatuor, qui est notre invité aujourd'hui, vous allez nous jouer un dernier titre pour la route. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le titre que vous allez jouer en studio ?
Alors, Bostanci, brièvement, si je veux parler de ce morceau, donc c'est un morceau à la base qui vient d'un répertoire populaire de Boukhara, aujourd'hui en Ouzbékistan. Boukhara est une ville très importante musicalement parce que c'est vraiment le berceau de ce qu'on appelle le Chachmaram. Donc c'est la musique classique en fait de l'Asie centrale qui est jouée en Ouzbékistan mais aussi en Tadjikistan. Et cette ville est incroyable parce qu'en fait aujourd'hui c'est une petite ville mais qui a une immensité en fait de répertoire vraiment très varié, dont un répertoire qui s'appelle Moregi, qui est le répertoire populaire. Et donc en fait ce morceau, à la base, l'inspiration pour ce morceau vient de là. Donc la mélodie, la ligne mélodique principale qu'on chante, maintenant c'est la seule chose qui reste de ce morceau-là. Donc on se l'est approprié à différentes périodes, à différentes étapes, et ça représente un peu notre travail, c'est-à-dire on a envie de faire en fait de musique traditionnelle une musique vivante. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas la musique traditionnelle si on la considère comme une musique muséale ou une musique morte. Donc en fait, on a besoin de se l'approprier. Évidemment, ça se fait, pour que ce ne soit pas artificiel, ça se fait vraiment à différentes étapes. Pour arriver par exemple ce qui est Bostanci aujourd'hui, donc c'est un morceau à la base qui est joué en 6 temps. Là, ici, on le joue en 5, on est devenu un morceau en 10 temps. Le poème, justement, c'est un autre poème. Donc j'ai choisi un poème de Rofez qui marche assez bien en fait avec cette mélodie-là. Et après, tout le travail d'arrangement instrumental, c'est Ovo qui a fait. Donc, ce qui est devenu Bostanci nous représente en quelque sorte, en fait, elle nous représente en quelque sorte notre démarche.
Merci, Hossein et Sanas. Je vais vous laisser rejoindre Sina et Ava pour ce dernier titre en studio. Et je précise que pour les Lyonnais et les Lyonnaises, vous êtes en concert ce soir à 20h pour fêter Yalda à l'église Saint-Bruno des Chartreux. Je vous laisse rejoindre vos compagnons pour ce dernier titre en studio.
Oh. شاهین دل شوریده تا جد و پاکل بایدش ای دلندر بند زلفش ای دلندر بند زلفش از پریشانی
C'était le Quatuor Ohor avec Hossein Rad, Sana Satarzadeh, Tina Danesh et Ava Arisazan. Je rappelle un album qui est sorti cette année, Boston Chi, en 2025 chez Oran Sounds et un EP live in Téhéran. Pour notre dernier reportage de l'année 2025, nous sommes allés à Brest dans le cadre du festival No Border qui avait lieu du 4 au 14 décembre à Brest et dans les environs. Un temps fort a marqué cette édition. C'est un colloque co-organisé avec l'association Drôme qui avait pour thème l'appropriation culturelle.
Okora, le reportage.
Bonjour à toutes et tous. Je vais me permettre de lire, ce sera plus simple pour moi pour vous accueillir.
La salle est pleine à craquer. Pour un colloque qui a lieu au début de l'hiver à Brest, c'est un pari réussi.
Du temps si contrainte, prendre le temps de la pause et de la réflexivité devient trop rare.
La recette du succès, trois ingrédients. No Border, un festival des musiques populaires du monde qui depuis 15 ans rassemble artistes, publics et collectifs autour d'une programmation exigeante, festive et pleine de sens. Il y a aussi l'implication d'une association locale et ouverte sur le monde, Drôme, et un sujet d'actualité, l'appropriation culturelle.
La diversité culturelle, le dialogue interculturel ne vont jamais de soi. Ils se construisent collectivement, se questionnent, se négocient, s'apprennent.
L'idée de ce colloque est venue de l'association Drôme.
Anaïs Vaillant, anthropologue et artiste.
Est une structure de formation musicale en Bretagne assez importante. Et ils ont fait appel à moi pour la coordination parce que j'avais déjà abordé ces sujets pour mon doctorat il y a une vingtaine d'années et republié un article récemment, ce qui avait redonné un peu de visibilité à ce travail. Mais c'est vrai qu'entre ce que j'avais fait il y a 20 ans et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses autour de cette notion. Et l'appropriation en tant que telle, ce n'est pas forcément un processus négatif. Et c'est devenu aujourd'hui vraiment une formule très accusatoire, même si c'est une formule qui apparaît dans des cas vraiment édifiants de domination, de pillage. Elle est quand même utilisée aussi au sein des réseaux de musiciens pour parfois juste noter des différences d'origine sociale entre la musique et le musicien, parfois juste le fait qu'on ne soit pas considéré comme quelqu'un de légitime à jouer telle ou telle musique. Donc on n'est pas tout le temps sur des cas vraiment très manifestes de pillage ou de quelque chose d'inégal. On est à des endroits un petit peu plus sensibles, un petit peu plus complexes. Et donc on avait besoin, je pense, avec la communauté des musiques traditionnelles, de enfin parler de ça.
Juste une place. À droite. On va faire par là, on va les placer ici. Juste une place.
Voilà. Je participais aux veillées de chansons. J'enviais tellement les autres qui disaient « Je vais vous chanter une chanson que j'ai apprise avec ma grand-mère. » J'aurais bien aimé pouvoir en dire autant, ou presque pouvoir dire « Je vais vous chanter une chanson que j'ai apprise avec une grande-tante. » Mais non, personne ne chantait dans la famille. D'autres disaient avec fierté « Je vais vous interpréter une chanson que j'ai collectée auprès de Madame Machin, de Poule Machin. » Ça aussi, c'était classe.
Parmi les intervenants et intervenantes, Chris Men, chanteur breton qui présentait la veille son seul en scène Bastard entre théâtre et musique en partenariat avec le théâtre Piba.
Je chasse les chansons en breton.
Est-ce que tu t'es posé la question de l'appropriation culturelle dans ton parcours ?
Ben, ouais, enfin en tout cas quand apprendre le chant traditionnel déjà maintenant... La plupart d'entre nous, en Bretagne, on est déconnectés de ça. Et il a vraiment fallu que je me concentre à 100% sur le chant trad, que je déménage. En fait, je suis passé de Plougastel à Poulaouen. Bon, ça a l'air de rien comme ça pour les gens qui viennent de loin, mais c'est une autre pratique du chant. Et à Poulaouen, c'est un endroit où il y avait encore beaucoup de chanteurs et de chanteuses il y a quelques temps. Et là où il y a le plus de fest-noz aussi, quoi. Donc... au début, je faisais partie des gens un peu bizarres qui venaient d'ailleurs, même si c'était pas loin, et qui essayaient d'apprendre. Mais en tout cas, on s'est retrouvés à quelques-uns à essayer d'apprendre. Et donc, mais il y a toujours ce truc-là où des gens qui venaient pas de l'endroit d'où venait la musique arrivaient pour vraiment s'imprégner et s'imprégner pour de vrai pendant des années, et puis d'être au contact des chanteuses et des chanteurs, et puis d'organiser des choses. C'est comme ça, moi, que je suis approprié dans le bon sens du terme, je crois, la gavotte et puis le camp d'Adiscorne.
Mais de l'autre côté, revendiquer ses usages exclusifs de la culture, faire ses procès en légitimité avec des arguments essentialistes qui ramèneraient à une supposée essence, à une supposée origine, eh bien, cela semble heurter la conception mouvante et relationnelle de l'identité et de la culture que nous défendons ici, au sein de ce festival, au sein de ce réseau.
On a ouvert ce colloque avec le lien entre les processus d'appropriation et de réappropriation, de voir que parfois, il y a cette question de la légitimité qui était quand même en fil rouge sur le colloque. Parfois, même quand on est bretonne, en Bretagne, la légitimité, elle s'acquiert quand même. On passe par des processus d'apprentissage. L'appropriation, elle est longue, elle est aussi spécifique à chaque parcours.
C'est depuis cet espace solidaire des musiques minorisées, minoritaires, non hégémoniques, non mainstream, que nous nous sentons légitimes d'aborder ce sujet d'une façon ancrée.
Je crois que c'est toi qui as dit, et j'aimerais bien te faire réagir sur cette phrase tout à l'heure, que ça te choquait plus que quelqu'un chante en français le camp d'Adiscorne que le taraf roumain reprenne une gavotte.
Ouais, c'est vrai que l'appropriation culturelle, dans le mauvais sens du terme, il y a le côté culture dominante. Et du coup, pour nous, la culture dominante, par rapport aux Bretons, c'est le français. Donc si on chante une gavotte en français, c'est plus difficile à admettre que quelque chose qui va venir de loin, ou si quelqu'un chante une gavotte en arabe, je trouve ça génial. Mais après, c'est bon, c'est en même temps, si quelqu'un chantait une gavotte en français, ça pourrait peut-être être bien fait, mais je sais pas, il y a quelque chose d'un peu plus sensible, je pense, et qui est plus difficile à accepter, je pense.
Dans ce colloque, on vous invite à un travail réflexif sur les pratiques d'appropriation, sur les rapports de domination qu'elles peuvent reproduire, et on vous invite à vous questionner sur votre légitimité de création, d'exploration, de mouvement. Cette légitimité d'artiste est indissociable d'une responsabilité que nous avons à transformer les relations asymétriques.
De quand nos leaders ont de squash au ventre, barrage aux dents.
Même si la programmation fait la part belle à la musique bretonne, No Border invite aussi des artistes du monde entier, à l'image de la chanteuse, joueuse de kanoun et compositrice palestinienne Christine Zayed.
On se perd dans ce bâtiment.
Ouais, bah je te suis encore.
Je suis perdue mille fois, déjà chez moi je me perds moi.
T'as raconté un moment une anecdote que j'ai beaucoup aimée sur tes recherches archéologiques presque de chansons, de musique en Palestine. Est-ce que ces archives sont accessibles ? Comment tu as eu accès à toutes ces archives ?
En fait, il faut faire tout un chemin, et avoir vraiment les bons contacts, tout ça, tout ça. Et en fait, ce centre folklorique, ils insistent sur le respect de cet matériel. Et si on veut l'utiliser, il faut tout le temps avoir le permis et écrire en fait, bien les choses. Et, voilà. Mais ce n'est pas hyper difficile. Par contre, il faut vraiment creuser.
Pour toi, ça représente quoi, ce respect du matériel ?
En fait, à mon avis, moi, c'est... La musique est accessible à tout le monde et elle doit être accessible à tout le monde. Tant qu'on respecte le corps, les racines, ce que ça raconte, qu'on ne dit pas n'importe quoi, qu'on cherche bien, qu'on... En fait, c'est pour tout le monde, quoi.
Et est-ce que tu considérerais aussi que d'autres personnes qui sont extérieures ou qui ne comprennent pas la langue pourraient chanter ça ?
Oui, pourquoi pas ? Parce que moi, je suis enseignante et mes élèves, ils viennent pas tous forcément du monde arabe. Donc, on fait ça, mais on le fait correctement. C'est-à-dire, on cherche bien, on essaye de bien prononcer, de bien comprendre le contexte surtout. C'est le plus important, à mon avis, le contexte historique et politique et social.
La 15e édition du festival No Border s'est terminée dimanche 14 décembre après 10 jours de concerts, d'ateliers à Brest et dans les villes alentours. Le colloque sur l'appropriation culturelle sera disponible à la réécoute sur la plateforme Modal portée par la FAMDT, Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles.
France Musique, Planète Okora, Aliette Delalleux.
C'est la fin de cette émission. Merci à Max James, Maud Nouri, à la prise de son, Sébastien Royer et Guillaume Ledu. La semaine prochaine, on vous propose un concert avec quatre grandes voix des musiques traditionnelles, Daphné Critaras, Éléonore Fourniaud, Jacqueline Bagdasarian et Emma Pratt. Pour se quitter, c'est une autre voix que l'on va écouter, celle de Jamshid Chemirani, qui récite un poème de Hafez accompagné par ses fils dans l'album Dawar. Bonne journée sur France Musique et à samedi prochain.
که شد محرم دل در حرم یار بماند، آن که این کار ندادنست در انکار بماند.
گر از فرد برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در فرده پندار بماند. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوی گرفتار بماند.
France Musique.